Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 universel. Nous sommes jeudi 5 avril 2018. Au sommaire, en Sierra Leone, Julius Maada Bio remporte le scrutin présidentiel. Samora Camara, le perdant, annonce qu'il va faire appel. Les forces françaises et des groupes maliens ont tué une trentaine de djihadistes près de la frontière entre le Mali et le Niger, selon Barkhane. L'ONG internationale Crisis Group appelle tous les acteurs politiques en République démocratique du Congo à jouer leur partition dans l'organisation des élections du 23 décembre. Nouvelle bavure policière aux États-Unis, un noir non armé a été abattu par la police à New York. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. En Sierra Leone, Julius Maada Bio a été proclamé vainqueur avec 51,81% des voix contre 48% pour le candidat du parti au pouvoir, Samora Camara, qui d'ailleurs conteste les résultats. Anastasie Touliech.
Samora Camara a indiqué qu'il allait contester en justice les résultats des élections qui, selon lui, je cite, « ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités ». Fin de citation. Monsieur Bio, qui a prêté serment, a rencontré ce jeudi matin le président sortant Ernest Bai Koroma pour discuter de l'équipe de transition. Ancien militaire putschiste, Julius Maada Bio avait brièvement accédé à la tête de l'État en 1996 en renversant le chef de la junte, le capitaine Valentine Strasser, dont il était le numéro 2, avant de rétablir le multipartisme et de remettre le pouvoir aux civils. Les États-Unis et le Nigeria l'ont félicité. Le département d'État américain a salué dans un communiqué la crédibilité de l'élection ainsi que l'engagement du président sortant Koroma à une transition politique ordonnée.
Au Mali, une opération conjointe des troupes françaises et maliennes a permis de mettre hors d'état de nuire 30 djihadistes dans la région de Menaka, plus précisément dans la zone frontalière entre le Mali et le Niger. C'est surtout la coalition du mouvement de salut pour l'Azawad, MSA et le Gatcha, une milice pro-gouvernementale qui ont mené plusieurs opérations contre les bases djihadistes, et la force Barkhane a appuyé l'opération de dimanche dernier avec des moyens aériens. Kassim Traoré.
Des coups de canon sur coups de canon, de l'aube au lever du soleil, le combat était rude à la frontière Mali-Niger. L'offensive a eu lieu le dimanche 1er avril 2018. Les Gatcha et les MSA se battaient contre des milliers de djihadistes retranchés à la frontière Mali-Niger. C'est après que Barkhane est intervenu avec des moyens aériens. 30 djihadistes ont été neutralisés. En plus des 30 djihadistes, 9 terroristes ont été arrêtés. Selon l'état-major de l'armée française, cette bataille a été menée par la force française Barkhane, la coalition MSA Gatcha et l'armée malienne. Bien avant cette bataille, la traque des organisations terroristes sévissant dans le Sahel se poursuivait. Les hommes de l'âge d'Amou ont démantelé plusieurs bases terroristes et tué des chefs influents. Cette coalition a déjà laissé des traces positives dans la lutte contre les terroristes. En moins d'un mois, une dizaine de bases de terroristes ont été démantelées dans les régions de Gao et Menaka, et surtout à la frontière Mali-Niger. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Selon l'ONG International Crisis Group, le gouvernement du président Joseph Kabila a fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections le 23 décembre. Mais d'importantes inquiétudes demeurent sur la transparence et la qualité du scrutin, a écrit l'ONG dans un rapport intitulé « Poker électoral en RD Congo » publié cette semaine. Ces élections ont déjà été reportées deux fois en 2016 et 2017 avant d'être fixées au 23 décembre 2018. ICG appelle tous les acteurs à contribuer à l'organisation d'élections crédibles. Au Cameroun, les élections sénatoriales du 25 mars ont été remportées par le parti au pouvoir, selon les résultats proclamés ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti du président Paul Biya, a remporté 63 des 70 sièges. Le Social Democratic Front, le principal parti d'opposition, a décroché 7 sièges dans son fief du Nord-Ouest. un ancien gendarme rwandais soupçonné d'avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda, a été arrêté le 30 mars au Cameroun à la demande de la justice française. Philippe Raté Gekimana, devenu Philippe Magné depuis sa naturalisation française, a été interpellé à Yaoundé en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par un juge d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris. Cet ancien adjudant chef de la commune de Nyanza, dans le sud du Rwanda, est soupçonné d'avoir organisé et participé à plusieurs massacres en avril 1994.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un déficient mental qui agitait un objet métallique à des passants a été abattu par des policiers à New York. Cette nouvelle a provoqué de nouvelles tensions sur fond de violences policières. Les précisions d'Ekiabadou.
L'incident a eu lieu à Cronheit, un quartier majoritairement noir en plein cœur de Brooklyn. La police a répondu à des appels d'urgence signalant un homme portant une arme à feu pointée sur les passants. Une fois sur les lieux, selon un responsable de la police, l'homme aurait pris une posture de tir avec les deux mains sur l'objet pointé vers la police. Quatre policiers ont alors tiré sur lui, l'abattant avec 10 balles dans le corps. Shahid Vassel, 34 ans, a été identifié par le journal Daily News. Il ne portait pas d'armes, mais plutôt un tuyau. Il était un habitué du quartier. Plusieurs médias locaux l'ont décrit comme une personne non violente avec des troubles mentaux. Peu après la fusillade, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux dans un face-à-face plutôt tendu avec les policiers. Cet incident survient après des manifestations ces derniers jours à Sacramento, en Californie, pour dénoncer la mort de Stephen Clark, un autre jeune noir non armé et abattu le 18 mars dernier par des policiers.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué ce jeudi une grande possibilité que le Canada, les États-Unis et le Mexique puissent s'entendre dans les prochains jours sur les grandes lignes d'un accord de libre-échange nord-américain qui serait donc renégocié. Si l'on pouvait annoncer quelque chose au sommet des Amériques les 13 et 14 avril au Pérou, ce serait très bien, a-t-il indiqué. Le président américain Donald Trump demande une renégociation des termes de l'ALENA depuis son arrivée à la Maison-Blanche, estimant que l'accord de libre-échange désavantageait les États-Unis. Au Brésil, la Cour suprême a rejeté le recours de l'ex-président Lula contre son incarcération lors d'une audience d'une dizaine d'heures retransmise en direct à la télévision nationale. Les 11 juges de la haute cour judiciaire du Brésil ont rejeté sa demande d'habeas corpus, une mesure qui autorise tout condamné à rester en liberté tant qu'il n'a pas épuisé tous ses recours. Des responsables nord-coréens et sud-coréens se sont réunis pour préparer le sommet du 27 avril entre leurs dirigeants Kim Jong-un et Moon Jae-in qui se déroulera dans la zone démilitarisée sud-coréenne. Nathalie Barge.
La délégation sud-coréenne est dirigée par Kim Sang-yong, haut responsable des renseignements, tandis que la délégation nord-coréenne est conduite par Kim Chang-sun de la Commission des affaires de l'État. La réunion porte sur les aspects protocolaires du sommet, les mesures de sécurité et la couverture médiatique. Kim Jong-un deviendra le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée. Les deux précédents sommets avaient eu lieu à Pyongyang. Des questions se posent quant à savoir si M. Kim traversera la ligne de démarcation à pied ou dans un véhicule. Les deux parties doivent aussi discuter d'une possible retransmission en direct, ce qui serait une première. D'autres pourparlers sont prévus samedi au sujet de l'établissement d'une ligne téléphonique entre les dirigeants du Nord et du Sud. Au mois de mai, un autre sommet historique est prévu entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump, mais pour le moment, aucun détail n'a filtré sur cette rencontre.
En Turquie, au moins 4 personnes ont été tuées lorsqu'un homme a ouvert le feu dans une université dans l'ouest du pays avant d'être interpellé. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, l'assaillant est un employé de l'université Osman Gazi. Il a tué un vice-doyen, 2 membres du corps enseignant et 1 secrétaire de l'établissement pour des raisons inconnues. Et puis la Turquie qui exhorte la France à ne pas reproduire les erreurs commises selon elle par Washington en envoyant des militaires dans la ville syrienne de Minbej. Ankara menace d'attaquer la ville pour en déloger une milice kurde. Et puis la police espagnole a annoncé avoir saisi plus de 8 tonnes de hashish en une seule journée lors de deux opérations menées en Andalousie, dans l'extrême sud du pays. 4 personnes ont été arrêtées près du détroit de Gibraltar. L'Espagne est l'une des principales portes d'entrée de la drogue en Europe du fait de sa proximité géographique avec le Maroc. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le gouvernement ivoirien veut réduire les conflits fonciers en milieu rural. Abidjan compte notamment faciliter l'obtention des titres fonciers et moderniser le droit foncier rural en vigueur. L'Union européenne et la Banque mondiale vont conjointement injecter 116 millions de dollars. Ce projet comportera un volet social et institutionnel pour aboutir à une politique foncière et permettre d'empêcher ou de réduire l'émergence de nouveaux conflits fonciers en milieu rural. Les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré en 2017 une hausse de près de 22%, soit 2,5 milliards d'euros. Ce résultat est dû à l'augmentation significative des ventes d'équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques, le textile, les produits chimiques et le pétrole brut. L'Égypte constitue le 63e fournisseur mondial de la France, qui est son 11e partenaire commercial. Les représailles commerciales chinoises touchent le cœur de l'économie des États-Unis. Le géant asiatique a ciblé l'aéronautique, le soja et l'automobile. Il représente plus de 130 milliards de dollars d'exportations américaines vers la Chine en 10 ans. L'Alabama, le Montana, le Dakota du Nord et la Caroline du Sud ont même enregistré une hausse de 500% de leurs exportations. L'Association des consommateurs du secteur technologique dit que le commerce, les entreprises et les consommateurs vont être affectés. L'Association américaine des producteurs de soja a exhorté la Maison-Blanche à reconsidérer sa copie. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis a souligné que la négociation restait la voie privilégiée, ajoutant qu'il faut être deux pour danser le tango.
Voilà, on passe tout de suite au sport avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane.
Alors, les éliminatoires de la CAN féminine 2018 ont commencé hier.
Tout à fait, Abdourahmane. Plein de buts dans les 5 premiers matchs, 20 au total, avec la palme de la meilleure attaque à l'Éthiopie. Lucie a explosé la Libye chez elle, 8-0. La Tanzanie a été tenue en échec 3-3 par la Zambie. Le Congo a disposé de la Centrafrique 2-0. Le Sénégal a dominé l'Algérie 2-1. Service minimum pour le Kenya 1-0 face à l'Ouganda. Deux matchs au programme demain. Lesotho Swaziland et le choc Maroc-Côte d'Ivoire. Le Burkina reçoit la Gambie samedi. Le Nigeria, double tenant du titre, le Cameroun et l'Afrique du Sud n'entreront en piste qu'au second et dernier tour. Tout comme le Mali qui a bénéficié du forfait de la Sierra Leone. La CAN féminine 2018 va se disputer du 17 novembre au 1er décembre au Ghana.
Une mission de la FIFA s'est rendue en Libye pour étudier l'interdiction faite au pays d'accueillir des matchs internationaux.
La délégation de la FIFA a rencontré Faez Al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, M. Ferong Mozengo Omba, directeur des associations membres et du développement Afrique-Caraïbes. Chef de la délégation de la FIFA a indiqué qu'il soumettrait son rapport à la FIFA pour ouvrir la voie à une possible levée de l'interdiction des matchs internationaux dans le pays. La sélection et les clubs libyens sont contraints de jouer leurs matchs internationaux dans des pays voisins, notamment en Tunisie. Imposée depuis 2011 en raison de l'instabilité, la FIFA avait levé cette interdiction en avril 2013 avant de la rétablir après une flambée des violences.
Et en Europe, l'UEFA a ouvert une enquête après l'attaque du bus de Manchester City à Liverpool.
L'attaque visant le bus de Manchester City est survenue hier avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool à Anfield. Le bus transportant les joueurs de Man City a été visé par des jets de bouteilles et de canettes à son arrivée au stade une heure avant le coup d'envoi de la rencontre. On se rappelle encore remporté 3-0 par Liverpool avec un but de l'Égyptien Mohamed Salah et du Sénégalais Sadio Mané. Le verdict est attendu le 31 mai.
Voilà, merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. En République centrafricaine, les parents des personnes enlevées dimanche dernier par la LRA, non loin d'Obo, dans le sud-est, demandent des explications aux autorités de Bangui. Lundi, le gouvernement et la mission des Nations Unies, la MINUSCA, avaient officiellement annoncé la libération de 15 otages, information démentie par des sources locales. Le point avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Dans la matinée du dimanche 1er avril, des éléments de l'armée de résistance du Seigneur LRA prennent d'assaut le village Koubou, situé à 17 km de la ville d'Obo. Après des scènes de pillage, ils parviennent à capturer une vingtaine de villageois. Informés, les militaires centrafricains et les casques bleus basés à Obo font une descente sur le terrain. Le lendemain, le gouvernement et la MINUSCA annoncent officiellement lors d'une conférence de presse à Bangui la libération de 15 otages. Maxime Kazagui, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
À partir de cette attaque et de ces enlèvements, les forces centrafricaines, les FACA, ont pris attache avec les forces de la MINUSCA et ont décidé ensemble d'organiser une patrouille conjointe, si ce n'est une poursuite. Et suite à cela, à la rencontre entre d'une part les FACA et la MINUSCA, il y a eu un certain nombre d'échanges de coups de feu, initiés d'ailleurs par ce groupe de la LRA, suite à quoi nos forces conjointes ont riposté et ont pu, ce jour-là, libérer 15 otages.
La réplique n'a pas tardé. Les proches des otages apportent un démenti formel. À Obo et dans le village où le rap a eu lieu, c'est la consternation. Des sources locales contactées par VOA Afrique rejettent en bloc l'annonce des autorités à Bangui. Ce mercredi, la MINUSCA a maintenu sa position. Selon Hervé Verroussel, son directeur de communication, 15 otages ont bel et bien été libérés. Cependant, dans le langage, le nom du village a changé.
Les 15 otages dont nous parlons, et que les choses soient bien claires, sont 15 otages qui avaient été pris en otage lors de l'attaque de Bozongi, qui est un village à 12 km à l'est d'Obo. Nous avons montré aujourd'hui à la conférence de presse de la MINUSCA les photos de ces otages dans un camion avec des FACA et la MINUSCA. Donc ces otages ont déjà, le jour même de leur libération, rejoint leur village, qui est le village de Bozongi.
Des propos choquants pour Ernest Mizidio, député de Obo, qui en appelle à des actions concrètes pour la libération des otages, toujours entre les mains de leurs ravisseurs.
Nous ne connaissons pas aujourd'hui véritablement le sort des otages qui ont été pris par les éléments de la LRA il y a quelques jours, c'était le dimanche précisément, le dimanche premier. Ces otages-là sont toujours entre les mains des éléments de la LRA, contrairement aux informations qui ont circulé selon lesquelles ces otages auraient été libérés par les forces armées centrafricaines et la MINUSCA. Ces otages-là sont toujours entre les mains des éléments de la LRA et on n'a aucune information là-dessus. Aucune action n'a été menée jusqu'aujourd'hui.
Depuis l'annonce controversée de la libération de 15 otages, Bangui observe un silence total sur cette affaire. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Inquiétude de professionnels de certains secteurs de l'économie américaine après l'annonce par la Chine d'imposer des taxes sur les produits américains en réponse à des mesures similaires prises par Washington. L'Association américaine des producteurs de soja a exprimé son extrême frustration et exhorté la Maison-Blanche à reconsidérer les tarifs qui ont conduit aux représailles du géant asiatique. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint le politologue spécialisé dans les affaires et la finance, Jean-François Seznec.
Il est certain que du point de vue politique, les Chinois ont bien calculé leur affaire, sachant qu'ils attaquaient les principaux supports du président, hein, les fermiers, les gens comme ça. Ça va effectivement créer énormément de pression sur le président pour qu'il change d'avis. Mais il faut aussi remarquer que le déficit de la balance commerciale est quand même de près de 400 milliards de dollars par an. Il n'y a pas vraiment de solution facile. Les Chinois disent qu'ils veulent discuter, mais je pense qu'ils veulent aussi gagner du temps. Chaque fois qu'ils gagnent du temps, ils gagnent 30 milliards de dollars par mois. C'est assez difficile de savoir où ça va se terminer, tout ça.
L'ambassadeur chinois aux États-Unis, il a même ironisé, disant qu'il faut être deux pour danser le tango.
Oui, absolument. Il a parfaitement raison. Mais d'autre côté, les Américains pourraient dire aussi la même chose. C'est-à-dire que, oui, il faut être deux pour danser le tango. Et du point de vue américain, il faudrait aussi que les Chinois soient d'accord pour faire des sacrifices. important pour diminuer ce déficit. Le problème, c'est que s'ils diminuent le déficit, ça va leur faire des problèmes du point de vue industriel en Chine, parce qu'ils vont produire moins d'industries qui seront moins vendues ici.
Et comment vous analysez la stratégie de l'administration Trump?
Ils ont une approche à la négociation qui est peut-être beaucoup plus commune dans le secteur privé que dans le secteur public. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à accepter par beaucoup de gens. Et il est certain que beaucoup de ces décisions vont impacter l'économie américaine et vont surtout impacter les supporters du président. Et les Chinois savent ça, ils sont extrêmement forts dans les négociations. Ils connaissent très bien le marché américain, beaucoup mieux que nous on connaît le marché chinois. Donc ils ont un avantage et le président prend une position de force là-dessus qui peut ou ne pas marcher.
Et comment vous évaluez les rapports de force?
Les États-Unis devraient être les plus forts parce que c'est nous qui avons le plus gros déficit, hein, de 400 milliards de dollars par an. Il est certain que s'il y avait vraiment une guerre totale de commerce, les Chinois perdraient beaucoup plus que nous. Mais d'un autre côté, la capacité de la société chinoise à souffrir, à faire des pertes, est beaucoup plus forte que la nôtre. Donc le rapport des forces n'est pas tellement à l'avantage des États-Unis aujourd'hui, parce que le pays n'est pas uni dans ses efforts, et ça les Chinois le savent très très bien. Donc si je devais vraiment faire un choix en disant qui est le plus fort, à l'heure actuelle, la Chine est dans une meilleure position de négociation que les États-Unis, malgré qu'apparemment, ça devrait être le contraire.
C'était Jean-François Seznek, spécialiste des affaires et de la finance à Georgetown University.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Maison Blanche a annoncé hier que la garde nationale va être déployée à la frontière avec le Mexique. La veille, le président Donald Trump avait dénoncé une caravane de migrants venus d'Afrique centrale vers les États-Unis. Le président américain exige du Congrès un durcissement des lois d'immigration. Mary Benson.
Combler les lacunes, c'est ainsi que la Maison Blanche décrit ses efforts en matière de sécurité aux frontières avec effet immédiat. Kirsten Nielsen, ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis.
Le président a ordonné le déploiement de la garde nationale à la frontière.
La veille, dans un tweet, le président Donald Trump avait sévèrement critiqué une caravane de migrants organisée par une ONG dite « Peuple sans frontières ». Ces migrants, partis d'Amérique centrale, veulent traverser le Mexique pour atteindre la frontière américaine. Beaucoup d'entre eux, fuyant les violences ou la persécution dans leur pays, espèrent demander l'asile ou encore entrer illégalement aux États-Unis. Gustavo Sanchez, venu du Honduras, est plus que déterminé.
Seul Dieu a le pouvoir de nous arrêter. Donald Trump peut mobiliser son armée, mais avec la volonté divine, notre caravane va continuer.
Bien avant d'arriver à la frontière, l'ONG Peuple sans frontières a renoncé à encadrer la caravane. Un de ses responsables a déclaré que leur travail va se terminer à Mexico et que ceux qui veulent continuer le périple vont devoir le faire avec leurs propres moyens. 1200 migrants essaient d'atteindre les États-Unis le mois prochain, ce qui inquiète les partisans d'une frontière plus sécurisée, dont Marc Krikorian du Centre des études sur l'immigration.
Il doit y avoir une réponse ferme, sinon on encourage ceux qui ne sont pas encore dans cette caravane de venir de la même façon.
En adoptant récemment le budget fédéral, le Congrès n'a financé qu'une petite portion du mur de 1600 km que le président américain veut faire construire à la frontière avec le Mexique. Le président Trump cherche donc d'autres alternatives.
Tant que nous n'aurons pas de mur et de sécurité renforcés, nous garderons notre frontière avec des militaires.
Monsieur Trump sera le troisième président américain à déployer la garde nationale à la frontière. Cependant, la démarche a certaines limites. David Bayer du Cato Institute.
Il est interdit aux militaires de prendre part à des opérations internes de maintien de l'ordre dans le pays. La garde nationale est traitée de manière différente. Même dans ce cas, son statut fédéral interdit qu'elle soit engagée dans des activités de contrôle de frontières.
Et pour combler les failles des droits d'immigration, M. Trump va devoir convaincre le Congrès. Andrew Selly de l'Institut de politique de l'immigration.
Le président ne veut pas que ces illégaux restent au sein de la communauté en attendant leur jugement. Pour ce faire, cela va demander plus de lits et de centres de détention pour garder les adultes.
Mais les parlementaires qui reviennent la semaine prochaine au Capitole ont les yeux plutôt rivés sur les prochaines élections demi-mandat que sur l'adoption d'une nouvelle loi sur l'immigration.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205 2633. 001-202-205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas vos émissions interactives RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Chang, la présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Les représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants tels que l'ICAP de l'Université de Columbia aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique datant de plus de 30 ans.
Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA-VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.